Donc, je sais pas, avant de prendre des réactions de nos intervenants, peut-être prendre des questions si. Non, je crois que le public veut prendre la parole peut-être un petit peu aussi. Ouais.
Parce qu'en fait, le problème comorien est très simple. Il y a les traîtres d'un côté et ceux qui veulent bien être patriotes. Tout le restant, c'est de la littérature. Ça s'est passé en France en 40. Venir vous dire que nous ne parlons pas la même langue, tout cela, ça me paraît un peu facile. Donc, moi, je vais aller juste ce qui vient d'être dit. Je n'ai pas compris l'histoire de séparatisme en Rouen qui ne marche pas. Je n'ai pas très bien compris. Tu se parles contre qui, contre quoi?
Je voulais poser des questions par rapport aux différences de niveau de vie à Mayotte et aux Comores, s'il y a un écart théorique, pratique, je ne sais pas. Sinon, si quelqu'un pouvait intervenir sur le néocolonialisme français, puis les quelques coups d'État de Bob Denard, expliquer aussi brièvement ce que c'est le visa baladur, parce que je n'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Et puis au niveau du référendum, je voulais savoir le pourcentage de Mayotte, même si c'est effectivement. Enfin, parce que j'avais entendu dans une émission Rendez-vous avec Monsieur X que Mayotte avait accepté d'être rattachée à la France, même si effectivement c'est une entourloupe de la France. Et cette histoire de catholique, enfin, si c'est des manipulations, voilà quoi.
Moi, je voudrais juste dire, je trouve que c'était très intéressant. Je suis d'accord avec une grande partie de ce qui a été dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fait qui a un peu été oublié. C'est la demande d'indépendance de la part de l'île autonome d'Anjouan il y a quelques années. Et comment vos associations et en tant que militants, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Donc, voilà.
Une petite remarque, j'ai eu l'occasion et le grand plaisir de lire la thèse d'un Comorien qui s'appelle Mohamed Saleh, même s'il est né, il a grandi en Tanzanie. Mohamed Saleh a travaillé longuement sur le grand mariage. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que le grand mariage détermine aussi une immigration très forte. Et que cette immigration très forte est liée au fait qu'il faut suffisamment capitaliser pour pouvoir se payer le grand mariage et devenir un notable. Donc, je suis d'accord sur la lamination totale des Comores par le système Focard, mais je pense qu'il ne faut pas non plus faire d'angélisme sur le système précédent, parce que le système précédent, il donne quand même plus droit de parole aux hommes et pas du tout aux femmes, qu'il donne droit de parole à ceux qui ont de l'argent et pas à ceux qui n'en ont pas. Et juste à titre personnel, j'ai la grand-mère de ma fille qui est d'Anjouan. Elle a été très heureuse quand elle a pu constater que ma fille était née avec une peau claire et des cheveux lisses.
Merci. Je n'ai pas compris, enfin, disons, le dernier intervenant bon, sur la question comorienne. J'avais l'impression qu'on confondait, bon, c'est-à-dire la politique française aux Comores et les manœuvres bon, qu'elle met en place pour déstabiliser le pays. Hein. Donc, et moi j'ai l'impression que bon, le monsieur qui a intervenu, bon, le dernier, en fin de compte, il confond les deux et on ne comprend pas tellement. On a l'impression que peut-être le Comorien il est mis en cause dans cette histoire, enfin, alors qu'en fin de compte, il y a toute une manière en tout cas, de déstabilisation et que j'aimerais bien que les intervenants en tout cas, bon, nous clarifient un petit peu comment la France, par exemple, a pu réussir bon, à travers par exemple, le coup d'État ou bien les mercenaires à instaurer voilà, cette situation en tout cas lamentable bon, que vous avez décrit là au Comores, puisque je n'ai pas bien compris en tout cas pour le troisième. Merci.
Moi, j'aimerais savoir un peu. D'accord. J'aimerais savoir un peu, parce que vous avez dit que, et j'ai lu aussi le bouquin, que, comme quoi que par 20 fois, le Conseil de sécurité a condamné et réaffirme que la France doit quitter la France. Ils ont rajouté encore un visa, comme vous avez dit, en 96. D'où en 90, c'est ça ?
95.
C'est ce qui veut dire que le territoire est comorien, parce que les Comoriens qui allaient à La Réunion ou qui voyageaient prenaient un visa pour aller dans d'autres pays, mais pour aller à Mayotte, ils circulaient librement. C'est ce qui n'est pas logique. Alors, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il n'y a pas une action où ça a été déjà mené auprès des Nations Unies, auprès des Parlements européens, auprès du Tribunal international, pour les familles qui souffrent et qui perdent pas mal de gens pour la traversée. Est-ce qu'il y a une action, je veux savoir, est-ce qu'il y a une action qui a été menée, ou une plainte des familles, une pétition pour soutenir un peu ces familles-là? C'est ce que je voulais savoir.
Alors, on va peut-être revenir sur la question du séparatisme anjouanais. C'était la question de monsieur.
Oui, j'ai rien compris.
Donc voilà.
Je vais essayer. Je crois que ouais, le plus simple, chacun des intervenants va essayer d'apporter par rapport à connaissances. Enfin bon, moi, l'histoire du séparatisme anjouanais, c'est une suite, en fait, compte du séparatisme maorais. Et c'est une suite des manœuvres, ce qui est clair, de la France, hein, pour diviser les Comores, diviser pour mieux régner, et ça va dans la même logique. Donc, la France, quand évidemment, après l'indépendance des Comores, il y avait deux théories. D'ailleurs, je vous conseille d'acheter le livre de Pierre Caminade qui est juste derrière. Il reflète, c'est Mayotte, Comores, une histoire coloniale. Donc, il reflète bien, enfin, ce débat, il faut dire que, disons, depuis l'accession des Comores à l'indépendance, il y a eu deux théories. Il y a certains comme Focard qui voulaient qu'on néocolonialise l'ensemble, comme il a l'habitude de le faire en Afrique. Et il y a eu Debré, qu'on a cité tout à l'heure, qui voulait qu'on occupe Mayotte. En fait, quand les Comores ont été victimes, parce qu'on a fait les deux. On a occupé Mayotte et les députés, à part la parenthèse d'Ali Swali, les Comores, c'était des régimes dictatoriaux, manipulés par la France, corruption, et donc en parlant du niveau de vie, évidemment, le niveau de vie des autres îles a beaucoup baissé du fait de cette politique de corruption, de détournement et tout ça, et donc Mayotte s'est devenu une sorte de vitrine, tout en sa chantation pour la vitrine, parce que si on va au fond de Mayotte, on retrouve la misère. Mais bon, comme il y a la DDE, direction départementale de l'équipement, il y a pas mal de travaux, il y a pas mal de petits trucs, il y a le commerce qui fonctionne bien, bref, c'est ça qui attire, entre autres, les choses. Enfin bon, les autres Comoriens à y aller. Et juste le chiffre pour le référendum, le 6 juillet 75, ah oui, c'est la proclamation de l'indépendance, mais le référendum, c'était le 22 septembre 74, si ma mémoire est bonne. Et à 96%, les Comoriens ont voté pour l'indépendance des Comores, mais rapporté île par île, seul à Mayotte, si ma mémoire aussi est bonne, c'est 65%. 65 ou 55%, mais bon, c'était...
65%.
C'est 65% à Mayotte qui ont voté contre l'indépendance. Voilà. En Europe, enfin, on n'a pas, évidemment, c'était dans un climat où on a viré des gens, donc les calculs étaient faussés. En parlant de Mayotte, pour la question concernant les catholiques, il y a la grande partie des Maorais, ce sont des musulmans. Je crois que les catholiques ne doivent pas dépasser, bon, mis à part comme maintenant il y a beaucoup de métropolitains qui y vont, donc évidemment les chiffres sont faussés, mais bon, voilà, tout à fait, mais le pourcentage est peut-être faible, on peut considérer aux environs de 10% à peu près, oui. Et puis donc pour l'encouragement à l'immigration, enfin bon là c'est, je crois que la seule question qu'on peut poser enfin là-dessus, c'est que c'est comme dans les pays africains, on encourage la misère, donc évidemment les gens quittent la misère pour chercher des pays qui sont assez riches. Mais pour clarifier cette situation, il faut savoir que effectivement le combat est très dur parce qu'on a des régimes qui se plient. Il faut dire que ce sont les régimes qui se plient vers, enfin bon, aux autorités françaises, parce que comme Azali, il a besoin par exemple de prolonger son mandat d'un an. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va évidemment justement accepter les principes de la France, comme par exemple les joueurs maoris participent aux Jeux de l'Océan Indien. On lui dit, bon ben la France va vous aider à avoir un an de plus. Et si vous commencez à trop parler de Mayotte, on va vous envoyer des mercenaires, vous tuer, et puis mettre un autre président à la place. Donc ce sont des régimes corrompus sous, évidemment, le contrôle de la France. Donc ce sont les régimes, évidemment, qui divisent, qui essaient un petit peu... bon, le séparatisme manjouanais a été créé, malheureusement, c'était à la période des socialistes. Mais, entre autres, c'était la même période où Jospin voulait passer, évidemment, son statut de 10 ans de collectivité départementale. Donc, il y a eu des manipulations derrière. Il faut dire qu'il y a eu des militaires qui ont été poussés. Il y a eu des autorités. Il y a eu des militaires français qui sont allés manipuler tout ça. Et puis, il y a eu de l'argent qui est parti de Mayotte. Tout ça pour le séparatisme d'Anjouan. Bon, les esprits, évidemment, on remonte les foules. On essaie, évidemment, de diviser les gens, de créer les divisions, comme on dit, diviser pour mieux régner. Donc les circonstances sont difficiles, mais évidemment, c'est pourquoi il faudrait que le combat continue toujours. Enfin, je laisse la parole aux autres.
Bon, oui, je vais continuer sur le mouvement. Oui, le séparatisme. Bon, le séparatisme, en fait, à l'origine, c'était un mouvement, un soulèvement, un mouvement syndical des enseignants anjouanais qui n'étaient pas payés depuis des mois, donc ils manifestaient contre l'État central, c'est-à-dire contre le gouvernement comorien de l'époque. Bon, quand ils ont commencé, le gouvernement ne voulait rien entendre, ce mouvement s'est amplifié, et c'est par la suite qu'il y a eu des incursions. Parce que ça, on le sait très bien, il y a eu Fujon, notamment, qui est intervenu en juin à cette époque, et avec d'autres Français, et c'est là l'ambiguïté du visa Balladur, parce que le visa Balladur, il permet aux Comoriens, enfin permet, il facilite le passage des Comoriens des autres îles vers Mayotte. Mais de Mayotte aux autres îles, on n'a pas besoin de visa, et pour des raisons qui se comprennent, c'est que les Maorés sont considérés comme étant des Comoriens. Et la France profite tout le temps de ce fait, ce qui fait que des avions français peuvent venir atterrir en juin sans en référer aux douanes comoriennes, ce qui fait que les Français peuvent venir comme ils veulent en juin et à Moéli. Sans présenter de papier comme les autres le font. Ce qui fait que ce soulèvement des instituteurs a été encadré dès le début par les nostalgiques de l'Olympique français, tant et si bien que du jour au lendemain, on a vu à foison des drapeaux français, même des portraits de Chirac sortis de je ne sais quelle imprimerie dans un pays où on a de la peine à se trouver un vêtement, ce qui fait que dans les brousses, souvent ils se sont servis des drapeaux français pour se confectionner des habits. Donc on se demandait, beaucoup se demandaient comment ces drapeaux et ces portraits sont venus en juin dans, dans une île aussi démunie. Et c'est comme ça que le mouvement séparatiste a été initié. Et quelques jours après, il y a eu une délégation de l'élite anjouanaise qui est partie à Mayotte, dont le docteur, amené par le docteur Seydou, qui était convoqué, tout ça dans un pays soi-disant souverain, indépendant, qui était convoqué par le préfet de Mayotte pour recevoir les instructions comment encadrer ces mouvements-là. Et c'est comme ça que du mouvement syndical, ça s'est mué en mouvement séparatiste. Pour le séparatisme, je voulais préciser, bon, pour le grand mariage, elle a posé une question.
Ouais. Peut-être revenir, pendant qu'on est sur Anjouan aussi, sur les embarcations de fortune, enfin les conséquences du visa baladeur sur les Anjouanais. Notamment, j'ai vu l'autre jour à la manifestation que 4000 morts à peu près avaient été recensés. Donc, je sais pas si quelqu'un peut dire un mot là-dessus. S'il y a eu des actions en justice menées par les familles.
Depuis la mise en place du visa baladur en 1995, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui partent dans des canons de fortune, ce qu'on appelle les Kwasa Kwasa. Ce sont des pirogues, mais avec des moteurs un peu plus grands. Mais là, il s'avère que, bon, il y a eu une association à l'époque qui comptabilisait, mais on a tellement comptabilisé qu'au niveau des chiffres, en tout cas, le chiffre de 4000, ça, c'est un chiffre approximatif, mais ça peut être encore un peu plus, parce que il y a des, je dirais, il y a des morts anonymes, puisqu'il y a des pirogues par voie qui chavirent, on ne sait pas, puisque bon, là, comme ce sont des gens qui partent, entre guillemets, en cachette, ne pas utilisé clandestinement. Mais donc, il s'avère que ce sont les cas les plus graves qui sont énumérés. Si... Et là, malheureusement, comme il n'y a pas eu vraiment un recensement assez pointu, donc on essaie de travailler là-dessus. Il s'avère que ce sont les cas où parfois les plus connus, les plus tragiques, puisqu'il faut le dire qu'il y a eu des cas où ces canons de fortune. Et là, c'est là où je crois qu'on peut faire une enquête pour éventuellement poursuivre les autorités françaises qui ont chaviré aux abords de Mayotte, parce que Mayotte, il y a beaucoup de corail et tout ça. Bon, donc, et là, il y a parfois les CVD rapides de la gendarmerie française qui peut les poursuivre. Et là, on a eu des témoignages comme quoi il y a eu des... ces canons qui ont chaviré suite à des poursuites par ces vedettes françaises, et il s'avère qu'il y a des vedettes même qui font aller-retour sans assister aux personnes qui meurent sur place. Donc c'est une assistance à personne en danger, oui. Ou parfois on soupçonne même, ou il y a quelques indices où on les crève exprès pour les bateaux, je veux dire les canons, pour que évidemment les gens puissent se perdre en pleine mer. Enfin, bon, c'est...
Comme je suis arrivé un peu d'affaires, j'ai pu tout mélanger en même temps. Peut-être que c'est pour ça que la question posée par monsieur sur le séparatisme. Le truc était très simple, c'est que j'étais en train de dire, pour ce qui est du séparatisme, qu'au départ, dans la mesure où la France voulait rester aux Comores, et là, elle a choisi de mener une entreprise de division. Donc on a séparé Mayotte du reste de l'archipel. Ça, c'est un premier mouvement. Tout à l'heure, il disait qu'Ali Swali, à part la période d'Ali Swali, Ali Swali est arrivé au pouvoir parce que Abdallah avait pris l'indépendance d'une façon unilatérale en dévançant un petit peu les Français sur ce plan-là. Il ne s'y attendait pas. Et Ali Swali a été formaté au départ. Alors, il a été plus malin, on dira, mais il a été formaté au départ par les services secrets à Paris pour prendre le pouvoir contre Abdallah. Donc, il a pris le pouvoir contre Abdallah. Et c'est sous Ali Swali que Denard est arrivé pour la première fois au Comores, donc pour récupérer Abdallah. Après, Ali Swali a été ce qu'il a été, c'est-à-dire qu'il s'est battu contre les Français, il ne comprenait pas ce qui se passait avec les Français, il ne comprenait pas qu'un État aussi républicain, au nom de l'égalité, machin, tous les discours que l'on tient ici, ne puisse pas accepter que ce petit État de l'archipel comorien puisse avoir son indépendance, il en est mort, des balles dans le dos. Après Ali Swali, il y a eu donc cette période d'Abdallah où les Français sont revenus d'une façon néocolonialiste assez claire, assez affirmée, c'est la période des mercenaires. Là-dessus, on est d'accord. Il faut savoir que sur Mayotte, on racontait aux gens comment les Comoriens sont cons globalement, c'est-à-dire les autres, hein, qui sont indépendants, à accepter des mercenaires, etc. C'est un État, une république bananière. Donc, on essayait d'utiliser des arguments contre le retour des Mahorais dans le Giron. Donc, on leur expliquait que c'était l'enfer en face, sachant que cet enfer était créé par les Français eux-mêmes. Je parlais de séparatisme, c'est que après la période Abdallah mort, on a eu une situation compliquée qu'il a expliqué, celui des syndicats. Une petite anecdote idiote, vous avez un fonctionnaire originaire d'Anjouan. Moi je préfère dire originaire parce que Anjouanais, parfois ça me pose un problème, ça ne veut rien dire parfois. Originaire d'Anjouan, qui travaillait à Moroni pendant 30 ans, qui s'appelle Kamal Abdoulahab. Kamal Abdoulahab est nommé à l'ambassade des Comores à Paris. Il vient à Paris, travaille à Paris, à l'ambassade des Comores, et un beau jour, on lui dit, ce monsieur qui n'a jamais accepté d'aller travailler sur son île d'origine, parce qu'il trouvait que c'était même pas la peine, c'était la brousse, c'est un pays de broussard, pour ne pas caricaturer son propos, il ne se voyait pas du tout au cadre qu'il était, travaillant sur son île d'origine. Pour lui, sa place était à la capitale. Et partir de la capitale, il n'y avait pas d'autre possibilité intéressante pour lui que de venir à Paris. Donc il est venu à Paris, il a travaillé. Un beau jour, il y a un pouvoir qui arrive, qui décide que son travail à l'ambassade de Paris est fini. Il faut qu'il rentre à Moroni pour faire autre chose. Donc théoriquement, il retourne au ministère des Affaires étrangères là-bas, en attendant une nouvelle affectation. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas rentrer à Moroni. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient animateur de réunions de séparatistes anjouanais à Paris, en disant les grands Comoriens nous ont exploités pendant des années, etc. etc. Ce qui était ridicule, c'est que lui, il s'est fait connaître à l'époque d'Abdallah, qui était lui dit anjouanais, ou se proclamait anjouanais. Donc, c'est ça la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des intérêts particuliers à un moment donné, et qui se retrouvent dans une situation complètement opportuniste, ils sautent dessus. Malgré le danger qu'il y a, malgré le côté tendancieux des discours, et après les gens se réveillent un matin, ils voient des gens dans la rue qui disent nous on veut être français, on ne veut plus être comorien. À Anjouan, il parlait de Peugeot. Peugeot c'est l'action française, c'est l'extrême droite française, ce sont les royalistes. Donc ils ont travaillé à Mayotte, ils étaient là en 74, ils étaient là en 75, ils ont continué leur entreprise, et en 97 on les retrouve aux côtés de Le Pia à Anjouan, à Moutsamoudou, c'est-à-dire ils sont parmi les grands souteneurs de l'action séparatiste, des séparatistes anjouanais, qui voulaient ne plus être assimilés à l'État comorien. Il faut savoir qu'au même moment, il ne l'a pas cité, et c'est pour ça que je parlais, je tenais à dire que c'est pas une entreprise concertée, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que les Français, l'action française, pour des intérêts qui leur sont propres, se retrouve en jouant en train d'aider les séparatistes anjouanais. Au même moment, une organisation humanitaire financée par le Quai d'Orsay à Paris, qui s'appelle Humanitas, se retrouve à Moutsamoudou en train de soutenir les séparatistes. Au même moment, l'ambassadeur français à Moroni sort un rapport pour dire que de toute façon, les anjouanais n'ont rien à voir avec les grands comoriens. Les grands comoriens sont des bantous et les anjouanais des perses. Pour ceux qui connaissent l'histoire des Comores et la culture comorienne, c'est une ineptie. Je pense que Hassan a dû parler de ça, j'imagine. C'est-à-dire que la population comorienne, c'est un long brassage de plusieurs siècles, etc. etc. Vous retrouverez des Perses, des Portugais, des Bantous, des Arabes, tout ça mélangé. Donc, disons qu'il a fait un essai pour stigmatiser, pour encourager les séparatistes anjouanais dans la perspective qui était la leur à ce moment-là. Donc quand je dis le séparatisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait un premier pas, c'est en 74, on a continué en 97, ça a payé en Anjouan, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Anjouan est la partie autonome de la partie indépendante, la partie autonome de l'Union des Comores, qui est incontrôlable pour le colonel Azali.
Tout à fait, mais il n'y a pas qu'un joint, y compris la Grande Comore elle-même.
Je suis d'accord, j'ai cité le nom. Non, mais j'ai cité le nom d'Elbak tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pour ça que je tenais à dire que les Comoriens eux-mêmes aujourd'hui sont dans une situation confuse, où eux-mêmes ne savent plus ce que c'est que de revendiquer une identité nationale. Ça, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, on peut dire à qui profite le crime, à qui profite. On peut poser la question comme ça. Alors, il y a eu les enjeux géostratégiques dont on a parlé. Certains disent aujourd'hui que c'est dépassé. Je ne suis pas certain. Parce qu'entre-temps, les Français ont récupéré Diego Suarez à Madagascar. Ils ont remis des militaires dans le coin. Donc, on dit que les Français seraient moins intéressés par Mayotte aujourd'hui. Ça reste à vérifier. Je n'en ai pas une preuve, ni un point ni l'autre, je ne peux pas le confirmer. Par contre, il y a une chose, c'est le deuxième point dont je parlais tout à l'heure, c'est l'imaginaire des Maorais a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas comoriens. Ils ne se sentent pas faisant partie de l'ensemble comorien. On a eu Mayotte et les Comores, on a même une compagnie Air Austral qui fait l'océan Indien, qui aujourd'hui fait des campagnes en France, dans le métro, en mettant une destination, La Réunion, Maurice, Mayotte et les Comores. Comme si la carte avait changé, effectivement. Donc, ça, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper. Il y a une troisième réalité, ce sont les hommes d'affaires. Ce que moi j'appelle les losers de la Réunion, c'est-à-dire tous ces hommes d'affaires français qui sont partis à la Réunion toucher l'argent des subventions françaises, et à un moment donné, ils n'arrivent pas à trouver leur place, à faire leur trou, qu'est-ce qu'ils font? Ils se délocalisent. Ils partent à Mayotte récupérer les données. C'est ceux qui construisent les maisons là-bas, qui développent le tourisme là-bas, etc., etc., et qui créent des tas de problèmes. Aujourd'hui, un Français, Mzungu, un expatre, qui va à Mayotte pour la première fois, il est assez étonné de voir. Moi, j'ai le directeur de l'Alliance française à Moroni, que j'ai eu au téléphone hier, qui me disait il a été à Mayotte pour le week-end. Il ne comprend pas, les Maorés le rejetaient en tant que Mzungu. Et que les rares personnes avec qui il a pu échanger véritablement, c'était des originaires de l'autre partie, de la partie indépendante qui vivait à Mayotte. Alors, comble du ridicule, je lui rappelais que c'est quand même la France qui a créé cette situation-là. Mais parce que les Maorais se sentent dépossédés de quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les métros qui profitent. Le principal gars qui fait les hommes politiques à Mayotte aujourd'hui, c'est Taillefer. Taillefer, c'est un mec des RG, en partie. Hein. C'est la partie que l'on connaît. Mais c'est un homme d'affaires à Mayotte. Il tient tout. Des entreprises, des hôtels, machin, etc., etc. Et Taillefer, c'est le mec qui vient d'être nommé au MEDEF à Mayotte. Et qui se permet, le jour de l'élection de Mansour Kamardine, de faire une déclaration à RFO, véridique, c'est-à-dire c'est pas une déclaration officieuse, qui dit « c'est nous qui l'avons fait ». Ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire toute cette masse de mafieux, d'hommes d'affaires, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire des affaires en France, qui n'ont pas les moyens de faire des affaires dans les Antilles françaises, ni à La Réunion, et qui se délocalisent à Mayotte. Parce que les Maorais eux-mêmes, parce qu'il y a eu un travail de ça, parce que la France n'a rien foutu pendant 30 ans, les Maorais sont dans une situation où eux-mêmes n'entreprennent pas grand-chose aujourd'hui. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, c'est une situation qui sert à beaucoup de gens. Et de temps à autre, il y a un Madelin qui passe dans le coin, qui a besoin de voix électorale, et qui dit « Mayotte est française ». Il y a un Jospin qui passe, qui a besoin de voix électorale, qui dit « Mayotte est française et nous allons vous aider à vous départementaliser ». Donc, il y a tous ces paramètres-là dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que ça ne sert pas uniquement aux enjeux géostratégiques. Entre-temps, depuis 1995, je crois, je ne connais pas la date exacte, mais c'est dans le livre de Caminade, il y a un autre enjeu géostratégique qui s'est planté là. C'est-à-dire que la France, de par le monde, a ce qu'on appelle de grandes oreilles. C'est des antennes qui permettent de jouer dans la cour des grands en matière d'espionnage. Il y en a quatre principales au monde, dont une à Mayotte qui a été installée là depuis les années 90. Là aussi, c'est des enjeux, c'est beaucoup d'argent et on ne peut pas partir du jour au lendemain en délaissant tout.